Bien donc, mesdames, messieurs, je vais vous présenter ces dernières réflexions autour de cette notion de titre. On a vu dans les séances précédentes comment émerger cette notion de titre progressivement. Il n'y a pas un effet Larsen ? Ah bon, excusez-moi, de mon côté, il y a un effet Larsen, mais comment émerger progressivement cette notion de titre et comment la définition même du titre restait en contiguïté avec la notion d'inscription imposant une certaine forme de concision. J'ai essayé de vous présenter, tel que je les voyais, le rapport, les différents types de rapports de titre au tableau. J'ai consacré donc la deuxième séance à essayer de montrer la transformation de la peinture que l'émergence d'un texte lisible permettait de mettre en œuvre. Et la semaine dernière, j'ai essayé de vous montrer comment le titre, intégré même au tableau, lui servait, pour reprendre toujours cette formule de Marcel Duchamp que je vous ai trop souvent citée, de couleur invisible ou de couleur supplémentaire au tableau. Le titre donc devient un usage, voire une nécessité, je vais y revenir, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, et même avant, je vous en ai donné quelques exemples. Or, une fois que le titre est devenu quelque chose qui est nécessairement lié au tableau, il a fallu ajouter des titres à des œuvres qui n'avaient pas du tout été conçues avec ce lien entre l'image et une formule et quelques mots. Et donc, c'est le rôle des historiens d'art qui, je prends dans un sens très large, qui est ainsi mis en œuvre, c'est-à-dire que notre lecture du tableau va être en grande partie déterminée par les titres ajoutés a posteriori à des œuvres. Ces titres qui vont fonctionner eux aussi comme une couleur supplémentaire qui est ici ajoutée et qui détermine complètement notre lecture. Ces titres, ils sont ajoutés a posteriori, peuvent être extrêmement changeants. Je vous en donne un exemple célèbre, qui est un tableau qui a changé à trois reprises, au moins, de dénomination. Alors, comme je vous l'ai dit dans les séances précédentes, je garde un système de guillemets au lieu de mettre les titres en italique, justement pour mettre en valeur ce caractère arbitraire du titre. Ce n'est pas par cuistrerie que je me propose de garder à tous les tableaux le titre des musées dans lesquels ils sont conservés, mais dans bien des cas, la traduction modifie largement le sens de l'œuvre. Ainsi, le tableau de Jérôme Bosch que nous appelons le Jardin des Délices, c'est dans les premières descriptions, alors là remontant à la fin du XVIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on l'appelait la peinture des fraisiers ou même tout bêtement les fraises. C'est-à-dire que c'était essentiellement un certain nombre de détails, l'abondance des fraises dans l'ensemble du panneau central qui avait conduit à dénommer ce tableau, c'est-à-dire que l'on était dans le domaine d'une description par les détails, par la spécificité. Au début du XXe siècle, dans des catalogues du Prado, il a été appelé des délices ou des plaisirs charnels, avant de prendre le titre que nous lui donnons aujourd'hui, le Jardin des Délices. Le titre des fraises a pu justement tenir une place importante dans la définition, même dans la recherche iconographique autour de l'œuvre elle-même, c'est-à-dire que l'analyse que Gombrich a proposée de l'ensemble de la composition est fondée sur l'ancien nom, les fraises ou les fraisiers, Naturellement, je pourrais passer, comme bien entendu, un peu plus d'une heure à vous donner le sens, ou à vous présenter les différentes interprétations données au triptyque de Jérôme Bosch, et je ne vais pas entrer dans ces détails. Donc, le choix du titre en cela est tout sauf anodin, c'est-à-dire qu'il détermine un regard. Le conservateur du Prado, qui au début du XXe siècle l'a appelé, je n'ose pas le prononcer en espagnol vu que c'est une langue que je ne maîtrise pas vraiment, des plaisirs ou des désirs charnels, a mis l'accent sur un certain nombre d'éléments ou de détails de ce tableau. D'autres ont été plus développés et on ne s'est pas cantonné aux délices charnelles lorsqu'on a réappelé ce tableau le Jardin des délices. De même, des titres conventionnels, j'y reviendrai, ont pu permettre de distinguer des œuvres qui, dans bien des cas, sont assez semblables. Mais alors, le titre perdant à ce moment-là, en grande partie, son caractère d'identification, de dénomination. Pour prendre un simple caractère de dénomination, vous avez quatre tableaux qui, en français, ont le même titre, le champ de blé, quatre tableaux de Jacob van Ruysdael. Je vous en montre un qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Lille, donc qui a conservé, qui reste le champ de blé, qui peut être aussi le coup de soleil. Donc, le paysage with Whitfield, alors qu'à Los Angeles, c'est plutôt Cornfield, deux façons de dire en gros la même chose, et renvoyant justement aux descriptions et aux catalogues de Ruysdael rédigés au XIXe siècle, où pour la vingtaine de tableaux, je ne vous en montre quatre, où Ruysdael a prévu cet éclairage spécifique sur ce qui est assez rare dans le paysage néerlandais, c'est-à-dire la représentation non pas de bocage, mais non pas de prairie, mais d'une agriculture de champs, qui pourtant existait en Hollande, on le sait bien, devient un caractère spécifique du tableau. Ces tableaux ont pu aussi être baptisés le coup de soleil, c'est-à-dire marquant ou jouant sur les relations d'ombre et de lumière du soleil se dégageant entre les nuages. Donc autant de titres qui peuvent varier, qui n'aident pas forcément à l'identification, et en même temps qui deviennent une nécessité lorsque le titre émerge et devient un élément clé du discours. En effet, parler d'une œuvre impose une dénomination. C'est pour ça que je dis l'histoire de l'art au sens plus large, et je ne prends pas le mot histoire de l'art comme on le fait un peu trop généralement, où les historiens d'art ce sont toujours les autres, comme les touristes ce sont les autres, nous on ne l'est pas quand on visite une ville, mais il y a toujours trop de touristes, les historiens d'art ont mal choisi, j'ai commis autant que les autres, vous trouvez autant que chacun, amené à appeler un tableau par tel ou tel nom conventionnel. Et d'une certaine façon, en proposant ce nom conventionnel, j'étais amené à interpréter ou à déterminer la lecture de ce tableau qui n'en avait pas. Et donc, alors je ne vais pas vous parler des titres évidents, c'est-à-dire les titres empruntés à l'Histoire sainte, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, etc., la Résurrection, encore que la Nativité et l'Adoration des bergers sont parfois confondues dans bien des ouvrages, ce sont deux épisodes qui peuvent être, n'ont pas exactement la même iconographie, ni les titres non moins traditionnels et très pratiques est emprunté à l'histoire ancienne, même si aujourd'hui on hésitera dans le cartel d'un musée à mettre la continence de Scipion ou à mettre la charité romaine sans autre explication, parce que ces sujets ont perdu un peu de leur actualité pour un visiteur. Mais enfin, bon, là on est face à des titres tout à fait conventionnels. Donc le titre nécessaire au discours, on ne peut pas citer une œuvre, on ne peut pas décrire une œuvre, sans l'appeler, à moins de pouvoir la désigner. Ce qui fait que j'avais évoqué la naissance du titre associé au tableau, mais le titre naît d'abord dans l'ekphrasis, dans la description. Les plus anciens recueils de descriptions que nous connaissions, Philostrate et ses Aïkones, décrit des tableaux dont on ne sait pas encore dont on ne saura jamais s'ils étaient réels ou imaginaires, mais chacune des ekphrasis, des descriptions de tableaux de Philostrate commence par un titre, les Coudées, les Andriens, les Xenia, etc., etc. C'est-à-dire que le titre du discours bascule en termes de titre de tableau. Et c'est un des grands enjeux. D'écrire, analyser signifie nommer. Alors, nommer ne signifie pas forcément ajouter un titre. C'est-à-dire que les premiers catalogues de gravures, je vous donne ici l'exemple du catalogue des gravures d'après Rubens du graveur Bazan, distinguent ce que nous appellerions le titre, c'est-à-dire la scène, et le titre, c'est-à-dire ce qui est gravé dans le tableau, Accepit, Iesus, Panem, etc., avec une coupure parce que le titre, c'est-à-dire l'inscription gravée du tableau, est à ce moment-là trop longue pour un dictionnaire. En même temps, si je vous ai donné, là on revient au domaine du livre, le titre complet de l'ouvrage Bazan catalogue des estampes gravées d'après Rubens avec une méthode pour blanchir les estampes et renoter les taches d'huile, nouvelle édition corrigée et considérablement augmentée, etc., etc. C'est pour vous rappeler, vous pourrez évoquer quelque chose qui n'est pas sans lien avec le discours de Whistler que je vous ai cité à diverses reprises, c'est la définition que Furtière donne du titre du livre. Il explique que le titre, c'est le proxénète du livre. C'est celui qui le fait vendre. Il emploie ce terme. Je ne sais pas si en présence de Marc Fumaroli, je peux parler de quelqu'un qui dit autant de mal de l'Académie française, pardonnez-moi. Mais il explique que tout auteur doit trouver un titre spécieux, c'est-à-dire ayant belle image, pour pousser l'acheteur à acquérir son livre. Et je crois que je vous ai donné dans les semaines précédentes un certain nombre d'exemples de titres spécieux pour la peinture du XIXe siècle, c'est-à-dire aider à être, sinon vendu, du moins apprécié. Donc le titre fonctionne ainsi comme fondement d'un discours. Le titre, disons le titre, à notre sens actuel, pour nous, c'est la scène, la résurrection de Lazare, la prière au jardin des olives, etc. Non pas au sens auquel l'emploie Bazan. Et en revanche, le titre au sens dans lequel l'emploie Bazan, c'est-à-dire l'inscription, peut être, dans certains cas, assez problématique. Alors, je vous montre une des fresques d'Annibal Carrache à la Galerie Farnèse, fresque dont le sujet est identifiable par une inscription, souvent citée, « Genus unde latinum », c'est de là que vient la race latine, « Enemistiche » de l'Énéide, qui a été justement fréquemment citée dans les textes que je vous ai présentés lors de la première séance comme l'exemple même d'une inscription qui rend compréhensible le sujet, c'est-à-dire qu'on n'arriverait pas forcément à identifier ce couple amoureux comme Énée et Anchise sans l'inscription. La composition a été gravée par un certain Lefebvre, on ne sait pas si c'est Claude Lefebvre, au XVIIe siècle, et le propriétaire de la planche au XIXe siècle a ajouté initial GA, c'est-à-dire faire croire que c'est une gravure de Gérard Audran, qui n'a jamais gravé ces fragments des galeries Farnèse. Et vu que Lefebvre n'avait pas, à la différence des autres graveurs, repris le Genus unde Latinum, eh bien, il a donné un titre qui est un titre faux, Hercule et Omphale, et non pas Vénus et Anchise. Donc là aussi, comment vous présentez ce sujet, comment légender cette image, c'est un vrai problème. Doit-on donner le titre présent sur la gravure alors que l'on sait que ce titre est inadapté? Et naturellement, il serait facile, sans remonter forcément à des gens comme Annibal, le propriétaire au XIXe siècle de ce cuivre, d'un certain nombre d'erreurs dans l'identification d'un sujet, donc dans le titre, erreur qui, naturellement, détermine le regard et la lecture de chacun des spectateurs. Et donc, une fois que l'on a un titre, on va, lorsqu'on fait de l'iconographie un peu simple, chercher la source et voir comment l'image correspond ou non à la source textuelle, alors que dans bien des cas, cela ne correspondrait pas. Je ne désire pas dresser un sottisier, ce serait facile et d'une certaine façon sans grand intérêt. Mais davantage m'interroger sur la façon qui donne des titres et comment fonctionne le titre dans son rapport au tableau. Alors, je vous citais tout à l'heure la question de la description. Et je vous prends ainsi un exemple célèbre d'un des premiers textes en français de théorie de l'art, le texte de Frère de Chambray, L'idée de la perfection de la peinture, où il analyse la perfection de la peinture à partir de 5 exemples et un contre-exemple. Les 5 exemples sont des gravures d'après Raphaël, et le contre-exemple du fou qui a détruit la peinture, c'est Michel-Ange. Évidemment. Le mauvais ange de la peinture, les discours sont absolument terribles et légèrement ridicules. Et donc, Frère de Chambray commente non pas les fresques, il est à Paris ou au Mans à ce moment-là, mais commente les gravures et commence par mettre en garde, avant d'inventer ce titre qui va finalement être légèrement transformé, mais continuer à être utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire l'école d'Athènes, en mettant en garde contre la gravure, avant qu'on devienne au particulier de cette composition, je veux avertir les curieux que le graveur qui l'a dessinée et mise au jour a été mal informé du sujet qu'elle représente, parce qu'il s'est avisé d'écrire au bas de sa planche ces paroles, Paulus Athénis, per Epicureos et Zoikos Quosdam, etc. C'est-à-dire Paul essayant de. Je vous en ai mis un petit peu plus long, je me doutais bien qu'on n'arriverait pas à lire d'ici cette longue inscription. C'est-à-dire que quand Giorgio Ghisi a gravé cette composition que nous appelons l'École d'Athènes, il l'a identifié comme saint Paul prêchant sur l'aréopage. Conduisant un certain nombre de lectures, de l'ensemble de la, non seulement de la gravure, mais aussi de la fresque, par certains, des gens qui n'ont vu l'image que par ses représentations. Donc il s'est avisé d'écrire au bas de ses planches ses paroles, comme pour dire que c'était saint Paul prêchant dans l'aréopage sur l'occasion d'un autel qu'il avait vu dédié par les Athéniens au dieu inconnu. Ce qui me donne sujet de faire observer cette inscription est la conséquence qu'il y a de savoir au vrai l'histoire dont il s'agit. Car si ce beau docteur-là nous disait vrai, la composition de Raphaël serait fort inepte. Au lieu que, l'entendant bien et conformément à l'intention de l'auteur, elle est excellente et admirable, ainsi que nous le verrons ensuite. Pour ce qui est de ce graveur-là, de qui le métier, comme celui de tous les autres simples copistes, n'est pas d'être gens d'esprit, il serait en quelque façon excusable dans cette ignorance s'il avait été plus juste et plus exact dans la précision de son dessin. Mais il y a coup de... etc., etc. Donc, Vous voyez deux inventeurs potentiels de titres. Là, Gysi n'a pas inventé de titre d'après ce que l'on prétend, les premiers titres à proprement parler de gravures seraient ce que l'on trouve, celles des grandes gravures, des grands paysages d'après Bruegel, que je vous ai montré lors de la première séance. Mais par l'inscription, conduit chacun à essayer d'associer l'image au chapitre 17 des Actes des Apôtres et de la comprendre différemment en fonction justement du mot écrit. Naturellement, Vasari n'est pas bien meilleur aux yeux de Frère de Chambray, je dirais relativement à juste titre dans sa description de la fresque de la chambre de la signature, mais cela pose complètement le problème de la dénomination. Et la dénomination, quand en plus elle est traduite, il y a un autre exemple dans la même salle qui est la dispute ce que nous appelons la dispute du Saint-Sacrement, disputatio, traduit en français par dispute, fait que ce triomphe de l'Eucharistie est désormais, a été lu pendant des années et des années comme davantage une forme de débat. Et là, Frère de Chambray, et surtout Bellori, parle de la dispute du Saint-Sacrement tout en expliquant ce qu'elle représente, mais comme vous le voyez, cette notion de couleur invisible que propose le titre, elle est aussi due aux différents interprètes et elles conduisent nécessairement nos lectures dans un sens ou dans un autre. Et ainsi, vous avez, à travers ces quelques exemples sur lesquels je me suis ainsi attardé, les différents modes d'utilisation ou d'invention des titres. Inventions aussi que nous pouvons parfois reprendre et qui ne sont pas toujours satisfaisantes, qui sont celles des inventaires ou catalogues de vente, qui semblent dans bien des cas pouvoir nous aider à identifier le sujet, ce qui n'est pas forcément le rôle du notaire qui est chargé de rédiger un inventaire après décès. Donc, le titre donc fonctionne autour de cette notion, de ce besoin majeur de dénomination pour pouvoir parler d'une œuvre, pour pouvoir l'indiquer. Et le titre, je vais y revenir un petit peu, je l'avais évoqué dans la première séance en utilisant la logique de Port-Royal, peut fonctionner à la fois comme un type de définition au sens philosophique ancien du terme, c'est-à-dire définir par le genre ou la différence, ou de description, c'est-à-dire donner à connaître par les attributs, par les accidents. Les fraises sont un titre de descriptif, si l'on peut dire. Je vais maintenant essayer justement de voir comment fonctionnent ces titres, c'est-à-dire quelles couleurs ils apportent au tableau. Alors je passerai rapidement sur le titre qui est simple dénomination. C'est là pour vous citer le texte que je vous avais mentionné la semaine dernière de Guillaume Apollinaire. Les dénominations qu'on trouve dans les catalogues jouent alors le rôle des noms qui désignent les hommes sans les caractériser. Donc Marie-Catherine Sahut me pardonnera de donner à ce tableau la dénomination qui a été la sienne pendant deux siècles, même si nous savons très bien, et je souscris complètement, que le tableau ne représente absolument pas la figure de Gilles, mais représente une figure de Pierrot. Actuellement, le cartel du Louvre indique le Pierrot dit Gilles, ça peut être le Gilles dit Pierrot, c'est-à-dire qu'on ne peut pas abandonner complètement l'ancien titre de dénomination qui conduit à reconnaître, à identifier le tableau, même s'il est ici ni descriptif, ni en termes de définition. Et donc, au-delà, il il a conduit aussi un certain nombre de gens à réfléchir sur cette notion de Gilles dans la comédie italienne, même si la figure n'est absolument pas celle d'un Gilles. Alors, je voudrais... titre générique, titre de type presque... donc, autour d'une définition philosophique, essayer de définir un tableau par son genre. Là, de nouveau, tout est entre guillemets, et ce sont les titres que l'on trouve dans les différents musées où sont conservés ces tableaux. Donc, vous me pardonnerez de mettre Still Leven en ce qui concerne le tableau de Heim qui se trouve à Amsterdam, et Still Life pour le tableau de Rijn qui se trouve à New York. Et de nouveau, chaque pays, et je vous l'ai montré pour le champ de blé sur lequel je reviendrai, conduit un tableau dans une dimension ou dans une autre. Et le tableau de Heim n'est défini que par son genre, le genre du Still Leven, de la nature morte. Ce problème, c'est que ce genre, il n'est pas franchement défini au XVIIe siècle. C'est-à-dire que le terme s'emploie en Hollande. Quand vous avez le mot nature morte, en revanche, en France, pour caractériser un tableau antérieur aux années 1750, c'est considérer que le genre existe à proprement parler, alors qu'il n'est pas défini comme un genre dans le domaine de la peinture française. Et donc, que l'on parle de tableaux de fruits, de tableaux d'objets, de tableaux d'animaux, que ce sont les différentes spécialisations des peintres, mais on n'emploie pas ce mot de nature morte, qui, en revanche, devient la caractérisation de l'œuvre par son titre. Et si je vous montre le tableau de Jacques de Rijn, qui est un tableau illustre, c'est la plus ancienne vanité que l'on ait repérée, il pose non moins de problèmes. Le mot vanitas n'apparaît dans les inventaires hollandais qu'à partir des années 1650-1660. C'est-à-dire que nous associons à ce tableau un genre qui a été ensuite clairement défini, qui renvoie à toute une conception, à des analyses iconologiques complexes, et l'école du Bethe-Cognis a poussé très loin l'analyse de ces vanités, en partant sur l'idée qu'il s'agit d'un genre ou d'un sous-genre de la nature morte. Bien sûr, le tableau que je vous montre contient tous les signes que nous jugeons propres à la vanité, la bulle de savon, la tête de mort, les fleurs. Alors naturellement, les fleurs, vu que dans le discours sur la vanité, elles sont un signe de la transitivité des choses de ce monde, cette tulipe ne peut qu'évoquer la transitivité des choses de ce monde. Les médailles et les pièces doivent être aussi lues, naturellement, autour toujours de cette vanité des choses humaines. Je ne dis pas du tout que ce ne soit pas le cas du tableau, mais c'est le problème justement de la définition par un genre, et un genre qui nous dit à tous quelque chose, alors que ce genre n'est pas encore franchement défini. Donc la définition par le genre est probablement plus juste que justement appeler un tableau par le Gilles, mais elle fausse aussi ou nourrit notre lecture, c'est-à-dire nous conduit à associer le tableau de David de Heim avec la période où un tableau n'avait aucune honte à s'intituler nature morte, c'est-à-dire la peinture cubiste. Aucun tableau, en revanche, de Chardin n'a jamais été appelé nature morte de son vivant. Et donc, lier ce tableau à un genre qui est un genre qui ne se définit même verbalement qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle. Donc, le titre comme définition est déjà une forme de classement d'histoire de l'art. Et je ne refuserai naturellement pas au tableau de Heim le nom de nature morte, encore moins à celui de Rijn le nom de vanité, mais je reste perplexe parce que je suis immédiatement amené à l'associer avec d'autres œuvres plus tardives et comme je vous l'ai dit lors de séances précédentes, l'historien d'art a toujours un regard rétrospectif et c'est en fonction de ce qui presque même des nouveaux réalistes, de l'utilisation d'objets dans des installations que je pourrais être tenté de lire ou de voir ce type d'œuvre. Alors, on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire définir par le genre et la différence, toujours pour reprendre les termes de Arnaud et Nicole dans La logique de Port-Royal. Je vous en donne des exemples parmi, là aussi, des centaines. On ne peut pas appeler tous les tableaux de Calf nature morte, donc on va les distinguer. Nature morte, still life, avec une corne à boire. Pourquoi le choix de la corne à boire par rapport, plutôt que celui du homard, plutôt que celui du tapis, plutôt que celui du rumeur, plutôt que celui du citron? Bon, autant de choix. C'est qu'elle est un peu plus rare dans les tableaux de Calf, ce qui ne veut absolument pas dire qu'elle n'existe, que c'est le seul tableau où elle figure. Mais donc, choisir un détail dans le tableau pour le nommer n'est naturellement pas insignifiant. C'est-à-dire qu'il conduit immédiatement le spectateur à mettre l'accent, soit, je pense que je l'aurais pour ma part plus appelé nature morte au homard, vu que le rouge apparaît au premier plan plus nettement. Mais le problème, c'est que nature morte au homard, ça correspond à plusieurs centaines ou milliers de tables servies hollandaises, alors que là, le corps à boire, c'est pas, ne correspond qu'à quelques centaines seulement, donc est plus distinctif. C'est donc le genre, définir par le genre et la différence pose indiscutablement un problème de compréhension et dans bien des cas, quel choix doit-on faire s'il s'agit de nommer un tableau? Et donc, l'autre exemple que je vous donne, un tableau de Bot, paysage italien avec dessinateur. Il pose un autre type de problème que j'avais évoqué rapidement et sur lequel Roland Reich est revenu longuement vendredi dernier, c'est-à-dire du paysage d'orage avec Pyramétis B de Poussin. Quelle place doit-on donner justement aux figures dans un paysage? Doivent-elles être au départ de la dénomination et du titre? Doit-on appeler ce tableau les dessinateurs? Doit-on considérer que ces figures de dessinateurs sont plus importantes que celles ici du pont ou des figures qui traversent le pont? Si on avait insisté sur le pont, ça aurait été plus simple pour tous les iconologues néerlandais, les spécialistes du bétéconisme, parce que chacun sait que le pont est un signe très fort du passage de ce monde à un autre monde. Le pont entraînerait le tableau dans le domaine chrétien. Les dessinateurs nous le ramènent dans un autre type de domaine. C'est-à-dire donc que c'est dans l'interprétation même que donne le titre. Il m'est arrivé, comme je pense à chacun d'entre vous, en regardant un paysage, quand je connaissais son titre, de chercher où se trouvait le détail qui avait conduit à donner le titre au tableau. Et donc que ce détail, à partir le poids du verbal par rapport au visuel est absolument indiscutable, c'est-à-dire que le nom et le détail choisi comme différence dans la définition d'une œuvre, ce détail devient finalement l'objet significatif de l'œuvre, celui que l'on va analyser le plus longuement et le plus précisément. Faut-il pour autant renoncer à tous ces titres ? Je n'irai certainement pas jusque-là, mais c'est une des difficultés évidentes auxquelles on peut se trouver confronté en nommant un tableau lorsque, justement, on veut le définir par le titre et la différence. Et je reviens justement au coup de soleil, ou plutôt au champ de blé. Je ne vous en montre que 4 sur les quelques 20 aujourd'hui conservés, probablement 50 peints à l'époque par Roizal, encore que c'est un peintre qui a toujours été suffisamment apprécié pour que ses œuvres ne disparaissent pas trop. Le titre ici cesse de fonctionner comme une définition pour basculer dans le domaine de la description. Et donc, il vient insister sur ce qui diffère des autres paysages. Seul le Getty, dans la dénomination qu'il donne de ce tableau, ajoute le mot landscape, le mot paysage. Pour les autres, tous les autres ont éliminé ce mot, c'est-à-dire donc nous conduisent non plus à voir le tableau dans son ensemble, mais à regarder ce coup de soleil sur le doré du champ de blé, et donc à analyser différemment. Et bon, le tableau de Lille, pour le tableau de Lille, comme pour tous les tableaux de Roizal, nous avons aussi des petites figures. Mais ces figures, à la différence des dessinateurs du tableau de Bott que je vous montrais précédemment, ne sont pas prises en compte dans la description du tableau, dans sa définition. Et alors là, le champ de blé renvoie justement au catalogue du XIXe siècle, comme le coup de soleil. Autant de titres que je ne refuserai pas. Le problème, c'est justement quand je dois classer ces tableaux dans mon ordinateur, et si j'avais à faire le catalogue raisonné qui a été fait par d'autres de l'œuvre de Roizal, comment arriver à les distinguer ? Ce n'est plus que par le lieu de conservation, éventuellement par la date. La description peut correspondre à beaucoup, beaucoup d'œuvres dans le cadre du titre descriptif. Alors, autre mode de comment sortir du descriptif, le titre d'identification, c'est-à-dire qui essaye de reconnaître, de donner à voir l'endroit. Et je vous montre notamment un tableau de Van Goyen qui se trouve à Los Angeles, au Getty, et qui est intitulé « Vue du Castle de Wyck, non loin de Durstede ». Comment dénommer cette œuvre ? C'est-à-dire, on le trouve pour un tableau de Van Goyen, pour quelques tableaux de Salomon van Roizdal, quelques tableaux de Jacob van Roizdal, c'est-à-dire que l'identification de quelques signes, la forme du château, la forme de l'église, renvoie aux formes propres à la ville de Dordrecht, ou à la ville de Wyck, ou à la ville de Harlem, dont on a beaucoup de vues de loin. C'est-à-dire que la silhouette de la grotte Kerk et d'un clocher font que cette ville ne peut être que Harlem. Ici, la forme du château renvoie évidemment à des études faites d'après la forme du château de Wyck. Mais en quelle mesure ce mode de définition ne nous fait pas déjà basculer dans une conception très 19e siècle du paysage, c'est-à-dire la vue ? Ce ne sont pas des vues topographiques. Et donc, au lieu de parler de paysage avec figure ou avec forme évoquant le château de Wyck, ou évoquant la ville de Dordrecht, ou évoquant la ville de Nimègue, on n'intègre ses œuvres dans ce discours sur la probité hollandaise, ce regard de la Hollande, le peintre hollandais qui ne peint que ce qu'il voit, les discours à la Fromentin, qui immédiatement élimine même les effets propres à la peinture tonale, le côté extraordinairement répétitif des compositions de Van Goyen, pour justement ne mettre l'accent que sur le caractère topographique. En revanche, le tableau du Louvre, du même Van Goyen, on n'a pas proposé d'identifier. En fait, je pense que cette église me ferait largement penser à la cathédrale d'Utrecht. Mais bon, Utrecht n'est pas au bord de la mer. Donc, ni au bord d'un grand fleuve. Donc, ça ne peut pas être Utrecht, même si ça y ressemble un petit peu. Donc, c'est un paysage fluvial, donc du domaine de l'imagination. Et l'opposition entre ces deux œuvres conduit évidemment entre les titres de ces deux œuvres, à les ranger dans des catégories différentes, à les lire différemment, à les colorer différemment. Et vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas ici de critiquer les différents conservateurs qui ont donné, et ceci remontant au XIXe siècle, qui ont donné ces noms, mais de bien montrer comment ces noms déterminent notre regard. Alors, ne parlons pas du grand tableau représentant le moulin à Wyck, le grand tableau de Jacob van Ruysdael, tableau qui a donné lieu à des interprétations iconographiques extrêmement complexes, sur lesquelles je ne m'arrêterai pas parce qu'elles ne me convainquent pas complètement, mais qui reposent sur cette notion de vue. C'est-à-dire le moulin domine l'ancien château, domine l'église. Les modes de représentation choisis par Ruysdael qui modifient les rapports de proportion entre les objets les uns après les autres. Je ne sais pas s'il y avait un projet de vue topographique, mais vu qu'il y a des éléments topographiques qui sont l'ancien château, l'église et le moulin, le discours iconologique va essayer de rendre compte de ces différences comme s'il s'agissait d'une vue faussée, d'une transformation essentiellement significative, qui est que le monde bourgeois l'emporte désormais sur le monde féodal ou sur le monde religieux. Que le moulin peut être un symbole naturellement aussi bien de ce qui est merveilleux avec la peinture hollandaise, de prospérité, qu'un symbole au contraire de goût excessif pour les richesses, de stabilité où au contraire le moulin tourne à tout vent, etc. Donc à partir du moment où c'est le moulin de Wyck, au lieu d'être une composition plastique employant des éléments empruntés à la nature, ce qui est le propre de l'essentiel de toute la peinture du XVIIe siècle, cela devient un tableau de type topographique et tout changement par rapport à la topographie devient significatif et donc justifie les commentaires longs d'un certain nombre d'iconologues dans la lignée des travaux d'Eddy de Jor. Donc, c'est de nouveau cette notion de coloration, le titre d'identification, pose un indiscutable problème. Et je voudrais m'arrêter sur un problème assez complexe d'un tableau qui a trois noms selon les langues et qui pose un certain nombre de questions qui désormais sont censées être plus ou moins résolues, mais qui contribue même à la lecture ou aux innombrables lectures d'une œuvre qui est presque sortie de l'histoire de l'art pour n'être plus que du domaine benjaminien de la reproductibilité à l'infini. Donc ce tableau est surnommé, appelé, dès le XVIIe siècle en France, La Joconde, ou Portrait de la Joconde. Alors, le problème, c'est que la Joconde est traitée ici, comme dans la plupart du cas, dans ses inventaires, comme un sujet abstrait, renvoyant au mot Joconda, la femme agréable, la femme souriante. Et on a dans des inventaires même italiens, l'inventaire de Salaï, l'élève de Léonard, dans son inventaire de 1525, on indique une peinture appelée la Joconde. On ne sait pas si c'est celle-ci ou si c'est une autre version, mais on a aussi un certain nombre de versions de peintres qui ont peint des Jocondes. C'est-à-dire des femmes agréables. Or, en sens inverse, à partir du moment où ce mot Joconde nous renvoie évidemment aussi au texte de Vasari, qui explique que Léonard, pendant 4 ans, a peint pour Francesco del Giocondo un portrait de sa femme Mona Lisa avec 2 N, parce qu'en italien, un seul N n'a strictement aucun sens, ou plutôt a un sens assez particulier. C'est un mot trivial, utilisé dans plusieurs dialectes, pour définir soit une personne de mauvaise vie, soit un crétin. Les Italiens apparemment n'aiment pas beaucoup que dans les affiches du Louvre, il n'y ait qu'un seul N dans le nom de ce tableau. Donc, eux tiennent à aux 2 N que l'on trouve comme abréviation de Madonna dans l'appellation italienne. Donc, vous voyez autant de difficultés évidentes. Est-ce qu'il faut mettre ce tableau en relation avec le récit de Vasari ? Est-ce que c'est une Joconde ou est-ce que c'est le portrait de Lisa, de Lisa del Giocondo ? Vasari, on a confirmation, et ce n'est pas seulement Vasari, dont le récit est on ne peut plus discutable, que Léonard a bien peint un portrait de Lisa del Giocondo. En même temps, lorsque le cardinal d'Aragon et surtout son secrétaire De Beatis va à Clou en 1517 et voit un tableau de femme qu'il admire dans l'atelier de Léonard, il explique que c'est une certaine dame florentine qu'elle a été faite d'après nature à la demande du magnifique Julien de Médicis. Julien, donc, vers 1513. Et donc, ce tableau, si c'est le même, si c'est le tableau vu à Clou, ce n'est pas le portrait Gherardi del Giocondo. Mais ce sera le portrait d'une maîtresse de Julien de Médicis. Je n'ai pas de réponse. Et je veux dire, je ne propose pas de vous dire aujourd'hui ce n'est pas le portrait de Mona Lisa. Je voudrais, à travers ce titre d'identification et ce titre qui d'ailleurs a basculé, c'est-à-dire que lorsque le tableau est transporté de Fontainebleau à Versailles, il est décrit par Lebrun comme un tableau de la main de Léonard da Vinci représentant le portrait de la Joconde. C'est le portrait de la Joconde et non pas la Joconde tout court qui est aussi un autre mode de regard. Est-ce que c'est un portrait ? Je veux dire, aujourd'hui, la Joconde tout court, n'en renvoie pas forcément à une notion de portrait. Mona Lisa avec 2 N, évidemment, renvoie au récit léonardien. Mona Lisa avec un N, nous renvoie presque à l'image du Duchamp que je vous ai montré la semaine dernière, avec les lettres blasphématoires en dessous de l'image. C'est-à-dire que là aussi, cette ce rebaptême du tableau ou ces baptêmes différents, chacun nous conduit dans une lecture d'un type extrêmement varié, recolore le tableau différemment, nous conduit à regarder soit le charme, la beauté, le sourire, le fameux sourire léonardesque, qui rend le tableau plein de jocunditas, ou bien nous invite différemment à le regarder comme un portrait, le portrait d'une bourgeoise florentine, ou plutôt d'une patricienne florentine, que Léonard aurait laissé achever en 1503 lorsqu'il a obtenu la commande d'une fresque pour le palais de la Seigneurie de la bataille d'Anghiari. Donc, De nouveau, mon projet n'est pas dans ce cours de réidentifier ou de proposer une lecture d'aucune des œuvres que je vous ai proposées, pas plus le Jardin des Délices que la Joconde, que le Moulin à Weyck. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment nous sommes tous déterminés par la dénomination que nous employons lorsque nous parlons de tel ou tel de ces tableaux, et que les couleurs que les peintres ajoutent par les titres au XIXe siècle et au XXe siècle à leurs œuvres, ce ne sont pas eux qui les ont ajoutées, mais ce sont les historiens, les gens de lettres depuis le XVIe siècle, et donc nous conduisant déjà dans nos lectures. Et j'avais aussi évoqué la semaine dernière un autre mode de relation verbale qui n'est pas seulement la relation syntagmatique entre l'œuvre et le titre, mais la relation paradigmatique des titres entre eux, conduisant à la même relation des tableaux entre eux. Alors, je vous montre, et je voudrais vous montrer deux exemples, ainsi pour finir, avant de conclure, de cet autre mode, aujourd'hui, dans un cas ici perdu, dans d'autres qui ne l'est pas, de coloration du tableau par l'adjonction d'un titre. Le tableau de Greuze que vous avez ici est exposé au salon de 1661, avec la mention dans le livret « Un mariage », le moment où le père verse la dot de sa fille. Tableau qui a le succès littéraire que l'on sait, avec les descriptions de Diderot, dont on n'arrivera jamais complètement à se débarrasser, et que Greuze a su fabriquer. Le tableau va être gravé sans titre, d'ailleurs, mais va donner lieu à une scénette, une petite pièce de théâtre, publiée ensuite dans le Mercure de France, auquel on a donné comme titre « La cordée de village », qui se termine par un tableau vivant, comme le tableau vivant que j'avais évoqué à propos de l'instruction paternelle de Terborch à la première séance. Ce tableau vivant renvoie au tableau de Greuze. Et cette pièce s'appelle « La cordée de village », et ce titre, finalement, reste accroché au tableau encore aujourd'hui. Pour nous tous, c'est de la cordée de village, c'est-à-dire non pas un mariage, mais des fiançailles. Et ce titre, en même temps, renvoie à un certain nombre d'autres accordées de village, notamment le tableau sans titre de Watteau qui se trouve dans les collections, qui se trouve en ruine dans les collections Soane's du Soane's Museum à Londres, et qui a été gravé par l'Armesin sous le titre « L'accordé de village ». C'est-à-dire que là, il y a un lien implicite fabriqué entre les deux tableaux, surtout quand on sait que bien des tableaux de Teniers ont été gravés et connus sous ce titre, c'est-à-dire qu'il s'agit, à ce moment-là, d'intégrer le tableau de Greuze dans une continuité ou dans une discontinuité et de le lire autour d'une transformation même de la conception que l'on se fait de la campagne dans les milieux parisiens Et je voudrais terminer en un tableau qui était jusque hier exposé au Louvre, qui est le tableau de le tableau de Vien que tout le monde, et moi y compris, j'en ai honte, appelons la marchande d'amour, alors qu'il est exposé au salon sous le titre La marchande à la toilette, sous le titre, avec l'indication dans le livret de marchande à la toilette. On est dans deux domaines, deux registres extrêmement différents. La marchande à la toilette nous renvoie au tableau de Boucher peint pour la reine de Suède, c'est-à-dire ces marchandes de mode passant le matin que toute la littérature nous décrit, apportant les derniers brimborions aux élégantes et en même temps transportant la correspondance amoureuse et donc qu'évoque ici dans le tableau de Stockholm la lettre scellée tombée par terre qui nous renvoie à toute la littérature de l'époque, c'est-à-dire un discours sur la marchande de mode comme entremetteuse ou la marchande à la toilette. C'est ainsi que Vien a intitulé ce tableau ou a présenté ce tableau au salon de 1763. Je ne dis pas que c'était son titre, d'une fois de plus, Vien n'utilisait pas de titre, mais il y est. Insistant essentiellement sur le caractère actuel de la scène, tout en le représentant sur le mode allégorique, donc en le faisant basculer dans le domaine ou le lien à l'Antiquité, à la fresque découverte à Stabie 4 ans plus tôt ou 5 ans plus tôt, qui a été gravée ultérieurement, fresque que l'on appelle la marchande d'amour. Et donc, on a projeté, je vous dis, je peux reprocher à bien des gens, mais à moi tout autant, de n'avoir jamais songé à appeler ce tableau marchande à la toilette, c'est-à-dire un tableau lié à l'actualité du XVIIIe siècle, pour le renvoyer essentiellement à ce lien avec la fresque de Stabie. Il s'agit bien sûr, pour Vien, de montrer que la... d'établir ce lien, de montrer qu'avec les modèles antiques, on peut faire des œuvres modernes, qu'on peut entrer dans un cadre propre aux besoins de la société du XVIIIe siècle. Donc la composition de Vien est naturellement plus riche que l'était la fresque initiale. Je préférais vous en montrer la gravure, vu que Vien probablement n'a jamais dû voir la fresque à proprement parler. Mais le fait de l'appeler la marchande d'amour en fait davantage un tableau archéologique que je pense qu'il ne l'était complètement dans l'esprit de Vien ou du comte de Caylus. Il s'agit donc ici, à travers ces dénominations, de ces représentations, effectivement, de tout un travail de lecture. La marchande d'amour que nous ramène effectivement à des propos centraux pour l'histoire de l'art, justement, cette nouvelle réflexion sur l'art de l'Antiquité à la fin, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et le tableau de Vien prend ici une place déterminante. Mais ces exemples que je vous ai montrés, et ma difficulté en préparant ce cours était de voir tout ce que j'éliminais plutôt que ce que je... les exemples peuvent être poussés à l'infini, vise une dernière fois à rejustifier cette question du titre qui n'est pas une question extérieure à l'art et à l'histoire de l'art, qui n'est pas une question extérieure au tableau. Elle est intégrée même dans l'œuvre. Un titre, même non donné par le peintre, même un titre erroné, vient s'intégrer à l'œuvre, la colorer. J'aurais tendance à penser que le rôle de l'histoire de l'art est peut-être aussi de faire cette histoire du titre du tableau, mais encore, il faudrait le faire presque pour chaque œuvre, c'est-à-dire, non pas seulement en termes de fortune critique de l'œuvre, d'évolution propre au regard, mais aussi de comprendre à quel point cette histoire des titres est au cœur de notre propre regard sur le tableau, sur l'œuvre d'art, et que le titre est un élément, même d'un autographe, sans lequel nous ne pensons pas le tableau, et il faut... Et donc, à partir du moment où c'est un élément sans lequel nous ne pouvons pas ne pas penser le tableau, il faut naturellement l'intégrer dans nos réflexions si l'on veut approfondir encore le travail sur la peinture. Et peut-être un dernier point, j'avais hésité à en parler parce que ce n'est pas de la peinture mais de la sculpture. Vous avez en ce moment une superbe exposition Messerschmitt au Louvre où nous lisons tous ces bustes autour de titres ajoutés bien après la mort du sculpteur. Et évidemment, notre regard est complètement déterminé par ces titres et ces indications qui ont pu être données. Ainsi, je pense qu'on devrait peut-être donner plus de place à l'histoire des titres dans l'histoire de l'art. Je vous remercie.